Europe 1. Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Hélène Zélani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 soir. Des renforts pour sécuriser le commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Il a été attaqué hier soir par une cinquantaine de jeunes. Nous y serons dans un instant. Et après le journal, notre invité sera Julien Chénardy, représentant du syndicat de policiers Alliance en Ile-de-France. Vous pouvez témoigner ou poser vos questions au 01 80 20 39 21. Grande opération Place Nette dans une cité des quartiers nord de Marseille. Elle visait les dealers de drogue. Dans ce journal, un collège toujours sous le choc près de Dijon. La ministre de l'Éducation est venue soutenir l'équipe. Vladimir Poutine confirmé pour 6 ans en guest star sur la Place Rouge. Et puis les tops et les flops du guide Michelin 2024. Ils viennent d'être dévoilés à Tours. 62 restaurants sont promus. À 19h45, nous serons en direct avec un heureux vainqueur qui décroche 3 étoiles. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors ça sent le printemps, la semaine s'annonce douce avant une chute des températures pour le week-end. D'ici là, prévoyez une journée douce et ensoleillée dans la plupart des régions. Demain, on fait le point à la fin du journal évidemment.
À tout à l'heure. Ce qui s'est passé hier soir est inacceptable. C'est en ces termes que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin apporte son soutien aux policiers de la Courneuve. Hier soir, le commissariat a donc été pris pour cible par une cinquantaine de jeunes. Désormais, des renforts de police sécurisent les lieux jusqu'à nouvel ordre. Reportage de Caroline Baudry.
Deux unités mobiles de CRS ont relevé la gendarmerie nationale sur l'esplanade du commissariat. Un dispositif important, a précisé Laurent Nunez, le préfet de police, en visite dans le bâtiment violemment pris pour cible. Il évoque un lien manifeste entre les exactions de la nuit et la mort de Wanis, 18 ans, lors d'une course-poursuite avec la police après un refus d'obtempérer.
Si on n'engage pas de course-poursuite quand il y a des refus d'obtempérer, on peut lâcher sur tout le reste. Évidemment, encore une fois, je déplore le drame qui s'est produit l'autre soir, mais je veux témoigner toute ma solidarité envers les policiers qui ne font qu'appliquer les instructions que je leur donne. Et donc, il n'y a rien qui justifie les exactions qu'il y a pu y avoir hier. Il y a une enquête judiciaire, il faut laisser la justice faire son travail.
9 personnes ont été interpellées, 2 mineurs et 7 majeurs âgés de 18 à 21 ans. Le maire de la Courneuve, Gilles Pou, a lancé un appel au calme cet après-midi.
Je crois par ailleurs que ces débordements ne rendent justice à quiconque. Et c'est de justice dont la famille a besoin. J'espère que l'appel à la responsabilité collective l'emportera.
Dans tous les esprits, la crainte de nouvelles émeutes, comme en juin dernier, après la mort du jeune Naël lors d'un refus d'obtempérer.
Caroline Baudry à la Courneuve pour Europe 1. Et juste après ce journal, nous reviendrons donc sur ce qui s'est passé hier soir avec Julien Chénardy du syndicat Alliance Police. On parle beaucoup du trafic de drogue qui mine certains quartiers de Marseille. Après l'appel au secours lancé par plusieurs magistrats, place aux actes. Depuis ce matin, une importante opération de police vise la cité de la Castellane, opération Place Nette dans les quartiers nord avec les dealers dans le collimateur. Récit de Stéphane Burgat.
Un chien policier vient de marquer une voiture. Aussitôt, une équipe s'affaire à forcer la portière pour procéder à une fouille qui ne donnera rien pour ce véhicule. Mais très vite, les forces de l'ordre se postent aux différents accès de cette cité et quadrillent la zone. Des agents pénètrent avec un bélier afin de fouiller les caves et les différentes chicanes construites par les dealers, principalement à l'aide de caddies ou bien d'épaves de scooters, sont débarrassées. Une opération Place Nette, donc, censée se dérouler de manière aléatoire sur plusieurs jours. Quand on est là, on tue leur chiffre d'affaires, se félicite un policier. Si ces opérations sont courantes, elles touchent cette fois-ci une cité totem du trafic de drogue dans la ville qui pouvait rapporter 80 000 euros par jour du temps du réseau de la Tour K, aujourd'hui détruite. Ce qui n'empêche pas les dealers de prospérer avec 5 points de vente différents, dont le Porsche affiché à grand renfort de graffiti représentant notamment le justicier Batman, mais qui se trouve aujourd'hui dans le viseur des autorités. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, arrive ce soir à Marseille avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. La violence à l'école, vendredi à Chenauve, dans la banlieue de Dijon, un collégien de 15 ans menaçait la principale avec un couteau. Aujourd'hui, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, est venue soutenir le corps enseignant du collège Édouard Herriot. Jean-Luc Boujon, vous étiez sur place.
Oui, un soutien marqué et répété à toute l'équipe éducative, encore sous le choc 3 jours après l'attaque. La ministre qui a toutefois donné des nouvelles rassurantes de la chef d'établissement.
La principale a beaucoup de courage, elle est très active, très proche de ses professeurs et de l'ensemble des personnels, et très désireuse de se projeter dans l'avenir.
Nicole Belloubet qui a également souligné le professionnalisme de tous les personnels de l'éducation, parfaitement préparés désormais à faire face à ce type d'attaque.
Les procédures de sécurité ont bien fonctionné. concernés. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de travail. C'est parce que nous avons des plans de prévention de mise en sécurité qui avaient fait l'objet de répétitions que lorsque l'événement s'est produit, la principale a eu l'extraordinaire réflexe et courage de faire ce qu'il fallait faire et les professeurs ont su ce qu'il fallait faire avec les élèves.
Un sang-froid apprécié aussi par les parents d'élèves comme Virginie.
Les profs ont très bien réagi, hein, mine de rien, donc le fait qu'ils aient fait l'exercice aussi à Tente à la Baie, je pense que ça a aidé et l'équipe pédagogique a vraiment été au top, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on revient un peu comme je pense tous parents, appréhension de ce qui se passe, mais bon, l'équipe est là, on sait que c'est encadré et puis faut bien continuer, quoi.
Une cellule psychologique a été installée au collège à destination des élèves. Elle restera en place autant que nécessaire.
Jean-Luc Boujon à Chenov, près de Dijon, l'élève de 15 ans a été mis en examen, notamment pour tentative d'homicide volontaire sur un enseignant. Il est en détention provisoire depuis hier. Direction maintenant la région toulousaine, où plusieurs dizaines d'agriculteurs, venus avec leurs tracteurs, ont manifesté à Balma. Ils protestaient contre un retard de versement des aides européennes de la PAC, la politique agricole commune. Ils sont sortis déçus de leur rencontre avec l'organisme qui verse ces aides, Charles Huillier.
Gabriel Attal qui tienne sa promesse. Moi, j'ai plus rien à perdre.
Des promesses de paiement faites ici dans la région il y a un mois. Pourtant, au sortir de la réunion d'aujourd'hui, aucune information concernant ces aides qui auraient dû être versées en fin de semaine dernière. Au milieu du lisier, devant l'entrée du centre de paiement, les représentants syndicaux ont pris la parole devant la cinquantaine d'agriculteurs présents.
On a un gouvernement de guignols avec un Premier ministre qui vient faire le beau dans ce département, qui explique que le 15 mars, on sera payé et on aura rien. Il va falloir qu'ils prennent le carnet de chèques. Ils vont lâcher.
Des aides de la PAC pourtant indispensables pour Loïc, céréalier dans le Gers. Sans ces soutiens financiers, ce sera la fin pour lui.
Ça représente 35 000 euros sur mon exploitation. C'est primordial, quoi. Sans ça, on est fichu. Hein. C'est irrespectueux. Je pensais avoir confiance. Là, plus du tout.
Une confiance rompue et des agriculteurs ici qui ne veulent rien dire sur la riposte qu'ils préparent et sur la possible contagion de la révolte dans les autres régions. À Balma, Charles Luillier, Europe 1.
Et toujours près de Toulouse, à Fonsorbe, un homme en fauteuil roulant est mort après avoir été renversé par un camion de plus de 3,5 tonnes. Une enquête doit préciser les circonstances de l'accident. Et puis à Bruxelles, deux militants écologistes sont perchés depuis ce matin à une dizaine de mètres du sol, dans un érable, près du Parlement européen. Ils veulent que l'Union européenne fasse respecter les droits des opposants au projet d'autoroute A69 dans le Tarn. Il est 19h07 sur Europe 1 dans un instant. Un concert sur la place rouge de Moscou qui se transforme en meeting politique. Vladimir Poutine, tout juste réélu, était sur scène.
Europe 1 soir.
19h09 sur Europe 1. Le Kremlin pavoise score record pour Vladimir Poutine à la présidentielle. 87,28% des voix précisément. 10 points de plus qu'en 2018. Le président russe au pouvoir depuis 2000 repart donc pour un mandat de 6 ans. Et pour fêter ça, il a rejoint la place rouge à Moscou, noire de monde, place où se déroule le concert des 10 ans de l'annexion de la Crimée. Nicolas Tonev, l'occasion pour Vladimir Poutine de fêter l'unité du pays et ses grands projets.
Oui, avec Russia, Russie, scandée par cette foule bien ordonnée pour accueillir Vladimir Poutine. Voilà sa prise de parole. Il salue donc ses chers amis. Hein. Il les félicite de l'annexion de la Crimée et de Sébastopol. Et ensuite, il évoque le projet en cours, le grand projet en cours, le Novorossiya, hein, cette Russie qui reprend le Donbass. Il faut justifier ce grand projet. Alors Vladimir Poutine explique que c'est un petit peu plus compliqué, que la guerre est compliquée, que ce printemps russe-là et ce retour à la patrie sont plus longs, mais inexorables, puisqu'il a une bonne nouvelle à livrer, une bonne nouvelle qu'il vient d'apprendre. Le train roulera bientôt de Rostov en Russie aux zones annexées jusqu'à Donetsk, Mariupol ou Berdiansk. Il explique donc que le gouvernement travaille concrètement malgré la guerre et arrive alors le coup politique du jour. Vladimir Poutine propose aux trois candidats défaits à l'élection avec des scores ridicules hein, qu'il vient de rencontrer au Kremlin. Il leur propose de dire quelques mots sur scène. Alors les trois relaient évidemment la politique du vainqueur, hein, démonstration d'unité faite derrière lui. Vladimir Poutine évoque à nouveau la seule et unique patrie et il lance alors l'hymne national. Il n'y a plus rien à ajouter, il est le seul maître à bord, une seule politique à suivre sous le drapeau, au moins pour les 6 ans à venir.
Nicolas Tonev qui traduit le russe en direct, chapeau. Et avec vous, on va revenir tout à l'heure sur cette élection de Vladimir Poutine, sur ce qui va se passer maintenant. Vladimir Poutine qui d'ailleurs a reçu les félicitations de la Chine, de l'Iran, de l'Inde et aussi de la Corée du Nord. Opération de l'armée israélienne à l'hôpital Al-Shifa dans la bande de Gaza. L'armée annonce l'élimination de 20 terroristes et l'arrestation de dizaines de suspects qui sont actuellement interrogés. Israël justifie son opération par la présence de terroristes haut gradés du Hamas dans l'hôpital. Par ailleurs, la Maison-Blanche annonce que le Premier ministre Netanyahou et le président américain Joe Biden se sont parlé au téléphone. C'est pour la première fois depuis plus d'un mois. Ils ont notamment évoqué la situation à Rafah et les efforts pour augmenter l'aide humanitaire à Gaza. Nous sommes 4 ans jour pour jour après le début du premier confinement pour cause de Covid. L'occasion pour la Fédération hospitalière de France de publier son baromètre santé. Résultat, l'activité des hôpitaux a repris. Elle a même retrouvé son niveau d'avant la crise. Mais si on y regarde de plus près, Yasmina Katou, le tableau est loin d'être idyllique.
Oui, plus de 3 millions de rendez-vous ont été annulés ou reportés entre 2019 et 2023. La Fédération hospitalière de France pointe du doigt un sous-recours à l'hôpital par rapport à 2019. Les prises en charge en cardiologie ont diminué de 13%. Plus inquiétant encore, les chirurgies digestives restent 7% en dessous des niveaux attendus. Or, ces opérations sont pratiquées surtout en cas de cancer. Face à ce constat, Arnaud Robinet, président de la FHF, parle d'une bombe à retardement.
Ce que l'on craint, c'est qu'un certain nombre de patients n'ont pas été diagnostiqués. Je prends l'exemple de cancer, notamment avec des risques en termes d'espérance de vie. Aujourd'hui, il faut que les pouvoirs publics s'attaquent à ce sous-recours aux soins que l'on observe actuellement.
Alors, pour expliquer cette situation, la Fédération avance 2 principales hypothèses. D'abord, des tensions persistent à l'hôpital avec le manque de soignants. Il y aurait en parallèle une hausse des renoncements aux soins. Ces 5 dernières années, 6 Français sur 10 ont déjà renoncé au moins à un soin, notamment en raison des délais trop longs pour obtenir un rendez-vous.
Et Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1, et Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France, sera demain l'invité d'Europe 1 à 5h40. On sable le champagne dans une 60aine de restaurants au moment où on parle, puisque 62 de ces restaurants sont promus au célèbre guide Michelin. Les résultats du millésime 2024 viennent d'être dévoilés à Tours, Martin Lange.
Oui, avec un héros, Fabien Ferret, 3 étoiles d'un coup à 35 ans. Il devient ainsi le plus jeune chef triplement étoilé. Écoutez son émotion au moment de monter sur scène il y a quelques minutes.
Je suis arrivé il y a maintenant 11 ans au Castellet. Est-ce qu'un jour j'aurais pensé à être sur cette scène avec la plus belle des récompenses? Je pense pas. Mais en tout cas, je tiens à remercier déjà le guide Michelin pour leur confiance. Croyez-moi, on va fêter ça dignement. Et merci à tous et au plaisir de vous voir à la table du Castellet. Merci.
Fabien Ferret, qui a longuement rendu hommage à son mentor Christophe Baquier, c'est lui qui lui a laissé les clés de la table du Castellet dans le Var il y a quelques mois. Un établissement qui était déjà étoilé mais qui a perdu ses étoiles avec le départ de son chef. Côté 3 étoiles, un autre lauréat, Jérôme Banquetel, le chef du Gabriel à Paris. Chez les petits nouveaux, 52 restaurants font leur entrée dans le fameux guide rouge et décrochent leur première étoile. Avec des belles histoires, notamment cet échange de restaurants entre d'un côté Émilie et Thomas Rousset et de l'autre Hervé Busset. Le couple s'est installé à Conques, Busset a récupéré l'adresse à Rodez et ils obtiennent leur première étoile la même année. 8 restaurants décrochent eux une deuxième étoile. À noter enfin l'hommage rendu à Yannick Aleno, le chef triplement étoilé qui a perdu son fils il y a quasiment 2 ans dans un accident de la route. Il a été décoré du prix Michelin du chef mentor.
Et vous savez quoi, Martin Lange, à 19h45, nous aurons la chance d'être en direct avec un restaurateur heureux qu'on a entendu quelques secondes, Fabien Ferret, qui décroche donc d'un coup ses 3 étoiles pour son restaurant du Castellet dans le Var. Les marchés financiers, maintenant avec Claire Lemaître de boursier.com, et Paris termine en repli.
Un léger repli, moins 0,2%, 8148 points pour le CAC 40. Marché prudent alors que plusieurs banques centrales vont entrer en scène dans les prochains jours, et d'abord celle des États-Unis, la Fed qui dévoilera mercredi soir sa décision sur ses taux. En attendant, la valeur du jour, c'est Alstom qui grimpe de plus de 6%. Les analystes de Deutsche Bank conseillent d'acheter la valeur. Forte hausse au moment où l'équipementier ferroviaire quitte le CAC 40 au profit du groupe hôtelier Accor. Et puis les autres indices en Europe sont eux aussi sur la défensive ce soir. Francfort est stable, moins 0,1 pour Londres, moins 0,2 pour Madrid, moins 0,2 à Paris pour le CAC 40, 8148 points.
Merci Claire Lemaître, on passe à la météo avec vous. Marlène Duret, demain, ce sera doux et globalement ensoleillé.
Et oui, une fois les brouillards et grisailles évacués, évidemment. Alors, quelques bémols, on a une petite dégradation orageuse ce soir dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est de l'instabilité qui va gagner demain matin les régions du sud-ouest jusqu'à hauteur du Lot et Garonne. Il y a tout le Midi-Pyrénées, l'ouest du Languedoc-Roussillon. On parle simplement d'un petit risque d'averse. Et demain après-midi, cette zone instable va se réduire pour se limiter aux Pyrénées avec quelques coups de tonnerre possibles à l'est de la chaîne pyrénéenne. On aura aussi un petit front qui va longer les côtes de la Manche, une partie de la Bretagne. Alors pas de pluie, juste un ciel généreux en nuages. Notez le long des frontières de l'est un voile de nuages en journée, mais ça reste lumineux. Et puis un ciel un peu plus variable entre l'Auvergne, la Bourgogne, la Champagne, la Lorraine. Au niveau des Préalpes du sud aussi, sur le relief corse, bon, le ciel peut menacer d'une averse. Partout ailleurs, l'ambiance sera très agréable, très printanière.
Et parlons des températures, les premiers 25 degrés de l'année ont été atteints à Montpellier aujourd'hui.
Et oui, le seuil de chaleur a été atteint à Montpellier de façon précoce. Habituellement, on les attend plutôt autour du 21 avril. En ce qui concerne demain matin, petite baisse des thermomètres sur la moitié nord, comptait 4 à 9 degrés, 7 à 12 du sud-ouest au pourtour méditerranéen. Et puis demain après-midi, les maximales afficheront 14 à 19 degrés sur la moitié nord, 17 à 22 dans les région de la moitié sud, avec des pointes à 23 ou 24 du côté du Roussillon. Puis je peux vous dire déjà que mercredi, pour marquer l'arrivée du printemps, les premiers 20 degrés de l'année pourraient être atteints à Limoges, Lyon, Orléans, Paris, Rennes ou encore Besançon, avant une baisse des températures prévues pour le week-end.
Merci beaucoup Marlène, il est 19h18 sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, l'attaque d'un commissariat hier soir à la Courneuve en Seine-Saint-Denis, des renforts sont sur place. On en parle avec le représentant du syndicat Alliance en Ile-de-France et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21.
Europe 1 soir.
19h22 sur Europe 1. Merci à ceux qui nous rejoignent. On revient sur les violences d'hier soir à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Le commissariat, attaqué par une cinquantaine de jeunes avec des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov. Incident lié à la mort d'un jeune de 18 ans la semaine dernière lors d'une collision avec une voiture de police. On en parle avec Julien Chénardy. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire national délégué d'Île-de-France Alliance Police. Merci beaucoup d'être en direct dans Europe 1 Soir. D'abord, selon ce que vous savez, quelle est la situation à la Courneuve ce soir ?
Bah écoutez, la situation à la Courneuve, pour l'instant, c'est un peu latente. On a eu une nuit très agitée, donc la nuit dernière. On a eu des violences qui étaient absolument inouïes. Ça a été, pour les collègues présents au sein du commissariat, un déferlement de violence. Ça a été très brutal. Avec des tirs de cocktails Molotov, des tirs de mortier, et les collègues ont dû faire appel à des renforts, notamment des renforts qui venaient de Paris, pour pouvoir sécuriser les lieux et ramener le calme aux abords du commissariat.
Vos collègues qui ont maintenant des renforts, hein ?
Exactement, donc il faut savoir qu'ils vont avoir des renforts toute la nuit pour pouvoir assurer la sécurité et pour bien évidemment également se protéger, puisque là on est dans le cadre vraiment d'un assaut sur un commissariat qui est pris d'assaut comme un fortin. Et il est bien évidemment pas question qu'un collègue soit blessé ou soit même pire, puisse être tué. Donc la sécurisation doit être maximale pour que tout le monde puisse ensuite rentrer chez soi à l'issue de la vacation.
Est-ce que vous savez pendant combien de temps ces renforts vont rester à la Courneuve ?
Ils resteront, j'imagine, autant de temps que nécessaire. Il faut savoir que ces violences, elles peuvent très bien ressurgir à n'importe quel moment. On l'a vu, il peut y avoir n'importe quelle étincelle qui peut éclater pour que ça puisse repartir. Et puis, les délinquants et tous les criminels qui étaient hier autour du commissariat et qui l'ont pris d'assaut, ils n'ont pas vraiment de raison en réalité pour s'attaquer à la police. C'est clairement des gens qui sont contre. C'est pas des amis de la police, bien évidemment. Et eux, leur but, c'est de semer le chaos, semer le désordre. Et ils sont là clairement aussi pour se faire du flic.
Et selon ce qu'a dit le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, hein, qui s'est rendu tout à l'heure au commissariat, ces incidents seraient liés à la mort du jeune de 18 ans la semaine dernière lors d'une collision avec une voiture de police.
Oui, c'est exactement ça. C'est lié en partie donc avec l'accident qu'il y a eu. Accident donc dans l'enquête qui est toujours en cours, hein, d'ailleurs. Sur les vidéos qu'on a pu voir, il y a beaucoup de hashtags qui font référence au prénom de la personne qui a été tuée. Bien évidemment, nous, ça pose question maintenant aujourd'hui de savoir comment ça va se passer sur les prochaines nuits, savoir comment vont se gérer les choses, parce qu'il est bien évidemment pas question que ça dure encore comme ça très longtemps. Il va falloir sécuriser un maximum. Je rappelle qu'hier, on a dû faire appel donc à des renforts de Paris. On a dû user de grenades pour pouvoir écarter les assaillants. Ça a été vraiment un déferlement de violence inouï. Et aujourd'hui, j'apporte bien évidemment tout mon soutien à tous les collègues qui sont aujourd'hui impliqués dans cette sécurisation.
D'autant que l'avocat de la famille accuse les policiers de l'avoir volontairement percuté à Aubervilliers.
Oui, c'est les déclarations de l'avocat. Après, ça, c'est ses déclarations à lui. Maintenant, la vidéo, elle, parle d'elle-même. On voit bien que le véhicule de police a dû se déporter parce qu'en face, il y avait un autre véhicule qui se déportait également. Et vous savez, moi, je connais aucun policier qui, demain, va percuter volontairement un scooter avec deux individus dessus. Ce serait absolument suicidaire. Et cette déclaration de l'avocat, je pense que, quelque part, elle met feu aux poudres, un peu comme la déclaration aussi de Monsieur Poutou. Ce sont des déclarations qui sont incendiaires, qui mettent le feu aux poudres, et ce sont des déclarations qui sont irresponsables. Je ne connais aujourd'hui aucun policier. Tous les policiers aujourd'hui de France sont des policiers qui sont responsables, et il est bien évident que demain, il n'y en a aucun qui aimerait se retrouver dans une tourmente judiciaire ou administrative, ou qui aurait envie de tuer un jeune comme ça gratuitement. Ce sont des déclarations qui sont pas sérieuses.
Alors, pour nos auditeurs, je précise que Philippe Poutou, dont on se souvient parce qu'il a été candidat NPA à la présidentielle, qui est syndicaliste, il a écrit sur X « Joli feu d'artifice devant le commissariat de la Courneuve, soutien à une colère légitime après qu'un jeune ait encore été tué par la police ».
Oui, Poutou, on le connaît pour ses déclarations. C'est le même qui disait que la police tue. Hier, je pense que s'il y avait eu un cocktail Molotov qui avait atterri sur un de mes collègues et que ce collègue avait été grièvement brûlé, je ne pense pas qu'il aurait pu dire la même chose, puisque hier, c'était mes collègues qui étaient en danger. Donc, ces déclarations... venant de la part d'un responsable politique, elles sont vraiment lamentables. Mais je pense que malheureusement, on est habitué avec cette partie de cette frange de la politique. C'est une frange d'extrême gauche, c'est une frange anti-flic, c'est une frange qui n'aime pas l'autorité. Et nous, ce qu'on demande justement, c'est un choc d'autorité. Et on demande ça depuis un certain temps parce qu'on a besoin d'autorité en France. Et on peut pas, c'est pas acceptable aujourd'hui quand on a des 50 individus qui prennent un commissariat d'assaut, qui tirent dessus avec des cocktails Molotov, avec des tirs de mortier. C'est pas du tout acceptable. Donc il est très clair qu'aujourd'hui, on a besoin de ce choc d'autorité. Ça devient vraiment très urgent.
Alors, je précise que 9 personnes ont été arrêtées. Si vous le voulez bien, Julien Chénardy, je rappelle que vous représentez le syndicat de police Alliance en Ile-de-France. On va marquer une pause et puis on prendra aussi notre auditeur Pierre, et ce sera juste après la pause. Sécurité renforcée ce soir à la Courneuve après l'attaque du commissariat par une cinquantaine de jeunes. 9 personnes sont en garde à vue. Violence qui serait liée à la mort d'un jeune de 18 ans à Aubervilliers la semaine dernière lors d'une course-poursuite avec la police. L'homme qui a poignardé un père de famille samedi devant un supermarché à Honnel-Château près de Rodez dans l'Aveyron a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre. La FNSEA et les jeunes agriculteurs seront reçus par Gabriel Attal demain matin à Matignon. Des agriculteurs qui étaient mobilisés près de Toulouse aujourd'hui, devant le centre de paiement des aides de la PAC, la politique agricole commune. Il voulait protester contre un retard de versement de ces aides. Vladimir Poutine a célébré sa victoire sur la Place Rouge lors d'un concert dit patriotique, organisé pour célébrer le 10e anniversaire de l'annexion de la Crimée. Le président russe réélu pour 6 ans avec plus de 87% des voix. Le foot, Antoine Griezmann, forfait pour les matchs des Bleus contre l'Allemagne et le Chili. Il souffre d'une entorse à la cheville. Il est remplacé par Matteo Guendouzi. Et puis le guide Michelin décerne une 3e étoile au restaurant Le Gabriel de Jérôme Banquetel à Paris, et Ferrarissime 3 étoiles d'un seul coup à Fabien Ferré pour la réouverture de la table du Castelet dans le Var. Fabien Ferré, qui, notez-le bien, sera l'invité d'Europe 1 Soir à 19h45.
19h-20h, Europe 1 Soir.
Et pour l'instant, il est 19h32 et nous sommes toujours en direct avec Julien Chénardy, qui est secrétaire national délégué d'Île-de-France Alliance Police, pour évoquer donc cet accès de violence hier soir à la Courneuve en Seine-Saint-Denis, un commissariat pris pour cible. Nous sommes aussi en ligne avec Pierre, qui nous appelle des Pays de la Loire. Bonsoir.
Oui, bonsoir madame.
Alors vous n'êtes pas du tout de la Courneuve, en revanche vous connaissez très bien les questions de sécurité.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années comme directeur sûreté et consultant sûreté dans des pays un peu plus compliqués que la France, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Et je suis rentré en France il y a un peu moins d'un an pour m'occuper du développement d'une société de sécurité privée dans les Pays de la Loire. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la situation est assez assez préoccupante. Vous parliez de la Courneuve. Malheureusement, je ne suis pas spécialiste pour vous parler de la Courneuve. En revanche, on a des actions à Rennes. On a parlé du quartier de Blône, où il y a eu une centaine d'étuis qui ont été tirés pendant une fusillade qui a duré plus d'une heure. Il y a quelques jours, on avait des agents sur place. Et quelques jours après, on a eu une fusillade sur la Calvoie qui menait vers Caen. Et on se rend compte que la France est vraiment, enfin en tout cas les campagnes françaises sont vraiment dans une situation très compliquée.
Voilà, il n'y a pas que la banlieue parisienne, hein, c'est ce que vous voulez dire.
Exactement. Il n'y a pas que la banlieue parisienne et à mon sens et à notre sens, nous, professionnels de sécurité privée, on se rend compte que les JO vont être un vrai révélateur puisqu'il va y avoir un chassé-croisé qui ne sera pas le chassé-croisé des vacances, mais c'est le chassé-croisé de la violence et la criminalité puisque les forces de sécurité intérieure, elles, vont être très sollicités sur les grandes métropoles, qu'il va y avoir une dispersion des populations criminogènes dans les zones rurales pour faire de Paris et des grandes villes des zones accueillantes pour les JO. Et malheureusement, les habitants des zones rurales vont se retrouver un petit peu seuls face à une criminalité auxquelles elles ne sont pas habituées, qu'elles ne sauront pas faire face.
Merci Pierre. Alors justement, Julien Chénardy, Pierre a raison de soulever cette question des JO. Vous craignez justement la situation à 4 mois des JO qui vont d'ailleurs, il faut le rappeler, se dérouler en partie en Seine-Saint-Denis.
Oui, c'est extrêmement inquiétant parce que aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas forcément l'effectif nécessaire pour sécuriser, en tout cas en région parisienne, ces JO, et donc on va aller puiser des renforts au sein de la province, donc au sein des villes moyenne importance ou même de petite importance, qui elles déjà ne sont pas non plus pléthores en effectif. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant. On peut se demander aujourd'hui si la France est en capacité au niveau sécurité. Peut-être qu'on a les infrastructures sportives, mais je suis pas sûr qu'on a les infrastructures policières pour pouvoir assurer la sécurité de ces JO, parce qu'on va avoir des milliers de touristes qui vont arriver en France, et j'ai peur que malheureusement ces touristes, ce soit un mauvais souvenir pour eux quand ils vont se retrouver à se faire détrousser ou se faire racketter, qu'il va y avoir des agressions sexuelles, parce que vous en aurez des choses comme ça. Toutes les bandes de voyous qui arrivent régulièrement en banlieue parisienne, elles vont aller profiter de ces JO pour aller commettre leur larcin.
Alors vous êtes très pessimiste, mais on entend hein, votre voix, Julien Chénardy. On aura bien sûr largement l'occasion de reparler de cette sécurité pendant les JO. Je vous remercie beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national délégué d'Île-de-France du syndicat Alliance Police.
19h-20h, Hélène Zélani.
Et à 19h36, on parle de la Russie. C'est tout sauf une surprise. Vladimir Poutine a donc été officiellement réélu à la tête du pays avec plus de 87% des suffrages. À 71 ans, il va donc passer 6 ans de plus au Kremlin. On en parle avec vous, hein, Nicolas Tonnef, rédacteur en chef à Europe 1 et spécialiste de la Russie. On en parle aussi avec le général Dominique Trinquant. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. On l'a vu tout à l'heure, Vladimir Poutine a réussi sa démonstration de force en se rendant sur la scène du concert sur la place Rouge ce soir, une place qui était noire de monde, général Trinquant.
Oui, enfin, noire de monde, on sait comment ça se passe en Russie. Hein. Il y avait un certain nombre d'étudiants qui avaient été amenés par leurs universités. il y avait sûrement des gens qui étaient contents d'être là derrière Poutine, mais c'est une organisation complète. Et c'est vrai qu'il il est l'homme fort, entouré de ses trois concurrents qui, en fait, l'ont bien aidé pour être élu, puisque aucun ne le contestait.
Des faux concurrents.
Et ça lui permet... Oui, des faux concurrents, oui. Exactement. Et ça lui permet maintenant d'entamer une nouvelle phase qu'il a annoncé. Et je pense que la nouvelle phase, c'est essentiellement le renforcement de son pouvoir en Russie.
Alors, juste, je voulais revenir sur cette image parce qu'elle était impressionnante. Alors, vous le dites, c'est évidemment une fausse, pas une fausse foule, mais enfin, c'est une illusion d'affluence et de légitimité. Est-ce que, selon vous, ce sont des images qui sont destinées aux Russes ou plutôt au monde extérieur, à tous ceux qui voudraient contester cette élection ?
Je pense que les deux, d'abord personne ne contestera l'élection, c'est pas une élection, donc elle n'a pas besoin d'être contestée, c'est un processus administratif qui a nommé le successeur du président Poutine, c'est-à-dire Poutine lui-même. Ce que je pense, c'est que c'est d'abord pour la population russe, et puis aussi pour donner l'illusion d'un processus aboutissant à la désignation d'un chef de l'État. Mais je pense que c'est d'abord pour la population russe, pour essayer de marquer le pouvoir du président Poutine et la fermeté de son pouvoir.
Alors justement, vous parlez de la population russe, Nicolas Tonev. Je sais que la question est toujours assez difficile. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du soutien réel des Russes à Vladimir Poutine ?
Alors c'est toujours très compliqué à estimer puisque le principe de base de la population russe depuis des centaines d'années, c'est la survie. Et pour survivre, il ne faut pas montrer que l'on pense et il ne faut pas dire ce que l'on pense. En principe, on s'efforce toujours de se protéger. Donc se protéger, ça veut dire exprimer le soutien au pouvoir. On a pu voir que ce soutien se lézardait. Hier, c'était très intéressant, l'opération vote à midi. Mmh. Alors évidemment, ça n'était pas des dizaines de millions de personnes, mais on a pu voir quand même que beaucoup de gens dans la région de Moscou et de Saint-Pétersbourg ont répondu à cet appel. Et pour moi, c'était vraiment une des premières fois que l'on avait en quelque sorte un sondage vérité sur ce que pensent les Russes, à savoir qu'ils se sont, en se montrant, ils ont montré aussi leur opposition. Et donc, elle existe, cette opposition.
Et justement, cette opposition, est-ce qu'elle est peut-être plus développée chez les jeunes qui ont peut-être davantage accès au monde extérieur via les réseaux sociaux ?
Alors, on a vu beaucoup de jeunes, effectivement, dans les files d'attente, y compris dans les régions très éloignées, hein, Vladivostok, Irkoutsk. Donc ça, c'est extrêmement positif pour l'opposition. Et d'ailleurs, une des personnes qui travaille pour le comité Navalny se disait que finalement, il fallait peut-être arrêter le principe de tenter des petits meetings cosmétiques, cosmétiques, comme il disait, hein, ça veut vraiment dire de tout petits meetings, et peut-être aller vers plus de manifestations de ce genre qui respectent la loi, parce que ça, c'est très très important. Si l'opposition veut que les gens sortent dans la rue, il faut impérativement que ça se passe dans un cadre légal, comme là, hein, vous êtes juste allé voter, c'est tout. Il se trouve que c'était pour exprimer votre opposition, mais vous êtes juste allé voter. Et le cadre légal est très important afin que les gens n'aient pas peur de s'exprimer.
Général Trinquant, on parlait à l'instant d'Alexeï Navalny. Pour la première fois de sa vie, hein, c'est quand même important, Vladimir Poutine a prononcé le nom d'Alexeï Navalny, qui, on le rappelle, est mort en prison à la mi-février. Il a dit c'est la vie, et puis il a quand même confirmé qu'un échange de prisonniers était prévu avant sa mort. Est-ce qu'on peut imaginer qu'autour d'Alexeï Navalny, il y ait une forme d'opposition qui puisse exister à terme en Russie ?
Alors écoutez, le premier point, c'est que le président russe en parle après sa mort et après l'élection. C'est-à-dire qu'en grand vainqueur, magnanime, il daigne parler de son opposant, annoncer qu'il aurait pu l'échanger. C'est une vaste rigolade, si vous voulez, de dire ça une fois qu'il est mort. Il aurait pu le faire depuis longtemps. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'opposition en Russie, je crois que vous avez parfaitement raison, ça, il faut que ça prenne un aspect légal. Sinon, malheureusement, les gens vont en prison et donc ça éteint l'opposition. Mais moi, je crois fermement que le pouvoir russe va se renforcer et va essayer d'éteindre toute opposition. Et même si les gens ont simplement fait la queue pour aller voter, ils ont été identifiés et vont probablement être... non pas poursuivis, mais on va voir la prochaine fois qu'ils apparaissent quelque part et finir par les embêter pour un processus administratif quelconque. Donc je pense que le pouvoir de Poutine va s'organiser. Il a organisé ça autour de la guerre et de la pression que la guerre fait sur la société russe. Alors évidemment, c'est l'opération spéciale pour lui, mais aussi bien dans l'économie, en organisant l'économie de guerre, qu'en interdisant de prononcer un certain nombre de mots. Donc il a besoin de continuer cette pression, et c'est pour ça qu'à mon avis, la guerre va continuer et va lui permettre de raffermir son pouvoir à l'intérieur de la Russie.
Justement, Nicolas Tonev, on aurait pu imaginer que ce conflit en Ukraine, toutes ces familles qui perdent leurs jeunes, ça aurait pu le desservir, et finalement il réussit à capitaliser sur ce conflit.
Là encore, moi, je serais un petit peu plus réservé parce que finalement, on voit une espèce d'enthousiasme, mais est-ce que cet enthousiasme vu sur les télévisions reflète la réalité? On a quand même vu dans les républiques du Bashkortostan, en Bouriati, des protestations assez massives. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui meurent, beaucoup de femmes qui se retrouvent seules. Donc moi, je ne serais pas aussi affirmatif. Les sanctions fonctionnent aussi tout de même en Russie, touchent également réellement les porte-monnaies des Russes. Hein. Il y a des produits alimentaires qui ont énormément augmenté. Et puis il y a des choses que l'on peut remarquer également sur les télévisions. Moi, quand je regarde le soir derrière les envoyés spéciaux, je vois la circulation à Moscou. On voit qu'il y a beaucoup moins de circulation qu'avant. Normalement, Moscou est une ville qui est vraiment, mais pleine de bouchons jour et nuit. Là, on voit beaucoup moins de voitures. J'ai des amis russes qui me disent qu'en fait, l'économie ne va pas très bien, à tel point que, par exemple, qu'il y a plus de jours fériés, qu'il y a plus de jours d'après-fête. Et cela sert à dissimuler, en quelque sorte, en fait, le chômage ou les difficultés économiques.
Merci beaucoup, Nicolas Tonev. On aimerait continuer à parler de ce sujet qui est vraiment passionnant. On va bien sûr aussi y revenir. Un grand merci d'avoir été en direct dans ce studio. Un grand merci à vous, Général Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. On va marquer une pause et puis on va parler gastronomie. Le guide Michelin vient en effet de décerner ses étoiles. On sera en direct avec l'un de ses heureux chefs 3 étoiles. Il en a eu 3 d'un seul coup. Et à 19h48, qui perd et qui gagne? Le verdict vient de tomber puisque le célèbre guide Michelin a décerné ses étoiles pour 2024. On est en direct avec Fabien Ferré. Bonsoir.
Bonsoir, comment allez-vous?
Bien, et vous surtout, vous devez aller très très bien ce soir.
J'ai l'impression d'avoir gagné la finale de la Coupe du Monde.
Un peu, hein, vous avez décroché 3 étoiles d'un seul coup pour la table du Castelet dans le Var.
Exactement.
On vous a senti très ému.
C'est vrai, je sais pas, je sais pas encore regarder, mais revisionner du moins. Mais en tout cas, j'ai parlé avec mon cœur et c'était sincère.
Vous n'avez que 35 ans et vous avez récupéré les cuisines de ce restaurant l'an dernier, donc c'est quand même tout récent. Ce restaurant, il avait 2 étoiles, il les a perdues avec le départ de son chef. Vous avez regagné 3 étoiles d'un seul coup, hein. Tout le monde s'accorde à dire que c'est absolument exceptionnel. Vous avez pensé à qui en premier ?
À mes proches, ma famille, mais ma compagne, bien sûr, Alissa, qui m'accompagne au quotidien sur tous mes projets, qui me soutient, et à Christophe Bacquier, Alexandra, parce qu'ils m'ont laissé cet héritage, et aujourd'hui c'est une chance.
Christophe Bacquier, qui est l'ancien chef, hein, je le précise.
Exactement, j'ai pu, avec qui j'ai côtoyé pendant presque 10 ans, qui m'a appris beaucoup, qui m'a apporté au quotidien, et aujourd'hui, on avait à cœur de représenter la maison et de continuer à écrire l'histoire de la plus belle des manières, et c'est chose faite ce soir.
3 étoiles, ça veut dire une cuisine exceptionnelle. Selon vous, qu'est-ce qui fait la différence?
C'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait la différence? Je pense que toutes les cuisines sont toutes aussi bonnes les unes que les autres, mais aujourd'hui, c'est une cuisine de passion, une cuisine de producteur, une cuisine de cœur. On s'efforce avec les équipes à cuisiner avec notre cœur et vraiment à aller chercher plus loin, à essayer de transmettre des émotions, à surprendre, à toujours avoir un jus ou une sauce assez percutante et qui viennent un peu sublimer le plat.
Des parents pâtissiers, des grands-parents agriculteurs, j'imagine que ça vous influence.
Bien sûr, je vais chercher un peu moins l'inspiration, là-dedans, parce que j'aime cette proximité avec. J'ai toujours noué ce lien de proximité avec les artisans, les paysans. Et aujourd'hui, à ma table, j'avais à cœur de mettre en valeur
et mettre en avant les produits. Le vin regorge d'acteurs et d'agriculteurs, de paysans locaux. J'avais besoin aujourd'hui de mettre en avant leur travail qui est juste fantastique. Et voilà.
Et concrètement, alors, qu'est-ce que c'est votre plat signature ?
Alors, je parlerai pas de plat signature parce que je trouve qu'à mon âge, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais disons qu'on a les attaches et aujourd'hui, le plat qui est reconnu, exactement, qui me représente le plus, c'est aujourd'hui, je dirais que c'est l'encornet à la provençale parce qu'on est sur un encornet méditerranéen où j'ai fait le parti pris de pas mettre de garniture, de mettre un jus extrêmement gourmand, réconfortant et percutant. Et de travailler sur l'encornet, de lui apporter une belle typicité de cuisson, je dirais. Et voilà, je triche pas, je suis sincère dans ma démarche. Et à preuve du contraire, ça a marché. Donc voilà.
La sincérité, c'est peut-être ça qui fait la différence.
Oui, parce que je suis quelqu'un comme ça. Je suis généreux, je suis dans le partage et je suis quelqu'un d'entier. Je triche pas. Donc voilà, aujourd'hui, j'avais envie de retransmettre à nos clients. Ces valeurs, c'est important pour moi.
Ça va changer quoi concrètement ces 3 étoiles ?
Ah bah rien, ma façon de cuisiner, ça c'est sûr. C'est évident, on va toujours cuisiner.
Par contre, l'afflux de clients, ça va peut-être changer quelque chose.
Voilà, c'est ça. Je pense que là, ça commence à s'agiter un peu en standard, mais ça changera rien à nos valeurs. Ça changera rien au fait qu'on ait cette proximité avec nos clients, parce que nos clients viennent pour ça aussi. Et rien à notre façon de cuisiner, parce que j'imagine que si le guide Michelin aujourd'hui nous a laissé les 3 étoiles, c'est qu'ils ont jugé la cuisine qu'on faisait l'année dernière. Donc il faudrait surtout pas changer. Voilà. Par contre, on va s'efforcer à faire toujours la même qualité. Et voilà.
Mais est-ce que vous allez peut-être vous agrandir, embaucher, peut-être changer de taille, en fait, passer au niveau supérieur ?
Oui, au niveau du staff, je pense qu'on va être à même à recruter quelques profils, quelques candidatures. C'est par la force des choses, je crois qu'on n'aura pas le choix, oui, tout à fait.
Certains chefs, vous le savez, ont fait le choix de rendre leurs étoiles. Antoine Westermann à Strasbourg, Sébastien Brass à l'Aïeul. Est-ce que vous comprenez la démarche de ceux qui ont cette chance et finalement qui préfèrent les rendre ?
Oui, je peux comprendre, bien sûr, parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, ils veulent exprimer une cuisine avec le cœur et voilà, ils sont dans une autre démarche. Aujourd'hui, moi, c'était dans une maison qui était auréolée de 3 étoiles au guide Michelin. On a continué à faire briller ces 3 étoiles. Donc voilà, je suis dans une autre démarche et en tout cas, je ne compte pas les rendre demain.
Mais est-ce que ça vous fait peur ?
Non. Aujourd'hui, je le vis bien. Je ne sais pas. Peut-être demain, ça sera différent. Mais pour l'instant, j'essaie de savourer le moment et je suis content pour mes équipes, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont œuvré pour ça. C'est pas un combat que j'ai mené tout seul, hein, il est évident. Et je crois qu'il faut souligner ça aujourd'hui, c'est important.
Alors, il y a beaucoup de chefs qui sont devenus très médiatiques grâce aux émissions télé, que ce soit côté jury ou côté candidat. Vous trouvez que ça change la donne dans le monde de la cuisine ?
D'être médiatique ?
Oui.
Non, je sais pas.
Parce que vous allez le devenir, vous, médiatique, il y a de grandes chances, non ?
Non, je pense pas. Je suis un petit bourguignon, vous savez, hein, qui fait sa petite popote dans sa petite Provence. Donc je vais continuer surtout à faire ça, garder la tête froide, la tête sur les épaules. Et aujourd'hui, ça va en rien changer ma philosophie et mes valeurs. Et puis après, on verra avec le temps. Mais pour l'instant, je vais pas changer.
Ça me fait rire parce que vous venez de décrocher 3 étoiles et vous vous qualifiez comme un petit bourguignon qui fait sa petite popote. Il y a comme un décalage entre la classe que ça sous-entend, le raffinement et aussi les prix, hein, et ce mot que vous employez de petite popote.
Ouais, mais parce que c'est une cuisine qui vient du cœur, voilà, encore une fois, je ne triche pas, je vais à l'essentiel, cuisine de produits... je cherche pas la complexité, je cherche pas forcément la technique, je vais à l'essentiel et voilà, j'essaye de je vais pas dire de ne pas tromper le consommateur, mais de rendre ma cuisine lisible. Voilà, je veux pas d'une cuisine complexe et je veux que quand le client commence à mettre le premier coup de fourchette, ça soit cohérent, quoi, ça soit lisible.
C'est quoi le plus beau compliment que peut vous faire un client quand il quitte votre restaurant ?
qu'il a envie de regoûter ma cuisine dès le lendemain.
Eh bien écoutez, je crois que vous avez donné envie à tous nos auditeurs de venir découvrir cette cuisine. Le restaurant, il est pour l'instant fermé, mais il va rouvrir le 5 avril, la table du Castelet dans le Var. On vous dit un grand bravo, Fabien Ferré.
Merci beaucoup, c'est
et aussi
merci.
Un grand merci pour avoir été
merci de votre écoute.
En direct sur Europe 1. À bientôt.
C'est gentil, merci beaucoup, belle soirée, au revoir.
Vous aussi.
Europe 1 soir.
Merci à tous de nous avoir suivis sur Europe 1. On espère qu'on vous a ouvert l'appétit. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel Europe 1 soir. Très bonne soirée.